Bienvenue au Dénominateur commun. Je suis Simon Constantineau.
Et moi, Nicolas Fortin. Dénominateur commun est une plateforme où nous recevons des Québécois au parcours inspirant, issus de divers domaines et qui ont marqué leur sphère d'expertise.
Nous discutons de leur carrière et des éléments clés qui ont contribué à leur succès, dans le but de s'inspirer de ceux-ci et de tirer des leçons, d'améliorer nos habitudes de vie et de découvrir de nouvelles manières de penser.
Nous espérons que ces discussions pourront vous amener sur des pistes de réflexion intéressantes et que vous puissiez appliquer quelques-uns de ces conseils à votre carrière et à votre vie personnelle.
Nicolas et Simon sont des amis de longue date et se sont toujours intéressés au parcours des personnes qui ont accompli de grandes choses. Aujourd'hui, ils ont la chance d'explorer ces parcours inspirants par l'entremise de leur podcast. Simon est un investisseur. Il a été analyste en capital de risque chez Innovia Capital pendant 2 ans. Avant de se joindre à Innovia, Simon était analyste dans l'équipe de VU Venture Partners à San Francisco. Il est également président de YCIF Montréal. Nicolas est consultant en management chez KPMG dans l'équipe expérience client. Avant KPMG, Nicolas était responsable du marketing et de la stratégie chez Cano Company, une start-up de développement durable. Il a commencé sa carrière en marketing chez L'Oréal Canada. Les idées et opinions exprimées par Nicolas, Simon et leurs invités sont personnelles et ne reflètent pas l'opinion de leurs employeurs respectifs. Les discussions sont strictement destinées à des fins d'information générale et ne doivent en aucun cas être interprétées comme un conseil en investissement.
Nick, on a la chance de pouvoir compter sur 2 collaborateurs spéciaux avec nous aujourd'hui. J'aimerais les présenter avant de commencer le podcast. À ma gauche, Alex Constantineau. Alex est chargé de projet chez National, un cabinet de relations publiques. Il a également la grande chance, et parfois la malchance, d'être ma sœur. C'est d'ailleurs sa voix que vous entendez dans l'intro de tous nos épisodes. Elle est étroitement impliquée depuis le début du projet. Alex, je suis vraiment content que tu puisses participer à cet épisode. Merci pour ton expertise. Et à ma droite, Jérôme Cauvier. J'ai rencontré Jérôme quand on était au Cégep. Jérôme était à la tête du club d'investissement de Grasset pendant que j'étais à la tête du club d'investissement de Brébeuf. Et je vous dirais que notre amitié s'est développée assez rapidement autour de notre passion commune pour le domaine des affaires. Jérôme est avocat chez Davies et c'est maintenant plus qu'un ami pour moi, c'est également un partenaire d'affaires important. Il a été d'une aide précieuse dans ce podcast. Jérôme, merci pour tes idées et pour ta drive. Je te laisse présenter notre invité d'aujourd'hui, qui est une figure marquante de l'histoire du Québec et également un de tes collègues. Nous sommes très fiers d'avoir avec nous M. Lucien Bouchard.
Monsieur Bouchard, si vous me le permettez, avant de poursuivre, je vais aller d'un petit résumé de vos faits d'armes et de votre impressionnante biographie. Vous êtes quelqu'un de reconnu pour votre leadership et vos talents hors pair de médiateur et de négociateur. Votre histoire, elle débute le 22 décembre 1938, alors que vous êtes né à 5 heures de Marie, dans la région du lac Saint-Jean. Vous êtes le fils de Philippe Bouchard et d'Alice Simard. En 1964, vous graduez de la faculté de droit de l'Université Laval et êtes admis au barreau du Québec la même année. L'un de vos collègues de classe notable à l'époque était nul autre que le défunt Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada. Vous pratiquez le droit à Chicoutimi jusqu'en 1985. En parallèle à votre pratique du droit, vous êtes nommé procureur en chef de la commission Clich, chargée d'enquêter sur la violence et la corruption dans l'industrie de la construction de 1974 à 1975. En 1975, vous êtes nommé coprésident de la commission d'études et de consultation dans les secteurs publics et parapublics, la commission Martin Bouchard. En 1976, vous faites partie des négociations avec les syndicats de la fonction publique pour améliorer les conditions de travail. Vous êtes ensuite nommé ambassadeur du Canada en France par Brian Mulroney, un poste que vous occuperez de 1985 à 1988. En 1988, vous êtes élu député fédéral sous la bannière du Parti progressiste conservateur, alors sous la gouverne de Brian Mulroney, et vous êtes nommé ministre de l'Environnement de 1989 à 1990. Peu avant l'échec de l'accord du lac Meech, vous démissionnez de votre poste de ministre de l'Environnement et fondez le Bloc québécois. En 1996, vous faites le saut en politique provinciale, où vous succéderez au défunt Jacques Parizeau comme premier ministre du Québec, sous la bannière du Parti québécois. Sous votre gouverne, le Québec peut se vanter d'avoir atteint l'équilibre budgétaire. Un très grand fait d'armes. En 2001, vous annoncez votre retraite de la vie politique et un retour à la pratique du droit chez Davies, Ward, Phillips & Weinberg, où vous êtes maintenant associé et où j'ai maintenant la chance de vous considérer comme un collègue. Monsieur Bouchard, merci d'être avec nous.
On dit que le pouvoir peut corrompre les hommes. Est-ce que l'exercice du pouvoir a changé quelque chose en vous? Et comment fait-on pour rester terre à terre?
J'espère pouvoir affirmer correctement que le pouvoir ne m'a pas corrompu. Quoique le pouvoir m'a appris beaucoup de choses. Le pouvoir ne corrompt pas nécessairement. Dans une vraie démocratie, en particulier si on parle des conditions environnantes, là, une vraie démocratie a des contrôles, il y a des contreparties, il y a plus de la corruption. C'est très rare, très, très rare. Et je pense qu'on peut se flatter de dire que dans notre démocratie à nous, que ce soit à Québec comme à Ottawa, les cas de corruption flagrante, ils sont très rares. Bon. Mais par contre, ce qui est le plus important pour ne pas être corrompu, c'est de se préparer personnellement. Il faut avoir des valeurs. Au fond, quand vous prenez une décision, puis on prend beaucoup de décisions en politique, on peut se tromper, mais il y a un test qu'il faut, que j'ai souvent, moi, utilisé. Une décision où les débats sont compliqués, controversés, des nuances à gauche, à droite, grise. Bon. Alors là, un test, c'est de dire, bon, bien, si on décide telle chose, puis qu'on l'annonce dans les journaux demain, est-ce qu'on va être à l'aise? Ah ben non, on va pas l'annoncer, par exemple. Là, c'est pas bon. Si t'es pas capable de prendre une décision, si on n'est pas capable d'adopter une décision qu'on pourra publier puis qu'on pourra défendre, ben c'est pas une bonne décision. Ça, c'est un test. C'est un test que moi, j'ai la plupart du temps, je pense, appliqué. Puis c'est le conseil que je donne à tout le monde de s'en tenir à ça. C'est très révélateur. Là, quand on se met à simuler, oui, mais si on annonce ça, qu'est-ce qui va frapper les gens? Qu'est-ce que les gens vont voir? Ben, on voit tout de suite ce que les gens vont voir de négatif. Et puis, si c'est négatif, ben, c'est parce que c'est contre un principe. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas prendre des décisions dont on saura qu'elles sont impopulaires. Je dirais même au contraire, parce que inévitablement au gouvernement, il y a des moments où vous devez prendre une décision qui sera impopulaire, qui va valoir une diminution d'appui, les pourcentages d'appui vont diminuer. Ça, on le sait d'avance, en certains cas. Mais quand la décision s'impose, encore une fois, ça reste une question de valeur. Au fond, là, au cœur de tout ça, c'est une question de valeur. Une question de moralité, au fond. Tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la politique, ça met en cause des enjeux de nature morale.
Bien, vous ouvrez d'ailleurs la porte sur le contexte entourant le déficit zéro. Lorsque vous étiez au gouvernement, ça devait être une décision assez difficile que vous avez prise. Peut-être que vous pourriez élaborer un petit peu.
Bien, une décision est évidemment périlleuse et avec des conséquences tout à fait prévisibles, dans le sens de décisions qui auraient des effets parfois désastreux sur des programmes, sur la qualité des services. Mais c'était un moment où la décision s'imposait d'elle-même. Peu importe ces considérations-là, là, d'impopularité ou d'impact négatif, qui était déjà assuré, il n'y avait pas le choix. On était dans une situation où le gouvernement du Québec voyait son intégrité financière compromise. Au point que on avait déjà subi dans les années précédentes beaucoup de cotes dans la notation des grandes agences de crédit. Et les niveaux sont tels que quand vous arrivez à un certain seuil, si vous allez plus profond, vos obligations ne peuvent plus être achetées par les institutions financières, ne répondent pas aux normes des investisseurs statutaires. Et puis là, si vous empruntez encore, ben là, ça va être des taux faramineux et ça va être de plus en plus désastreux. Donc, on était rendu là. Sauf que il faut convaincre les gens qu'on est là. Si, parce que le monde et les gens sont assez sages pour comprendre qu'il y a des situations où on est obligé de prendre des décisions difficiles, mais à la condition que la situation soit bien décrite et qu'ils en soient. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est on a fait ce qu'on appelle des sommets. Ce qu'on appelle des sommets à l'époque, le premier que nous avons eu était sur les finances publiques, justement, dans les mois qui ont suivi mon assermentation. C'est la convocation des espèces d'états généraux, comme ça se passait en France en particulier, durant la période des monarchies, quand ça allait vraiment mal, etc. Ils faisaient des états généraux. Et, ben, les états généraux, ça prenait la forme chez nous d'une convocation de tout ce qui constitue une entité dans notre société. Du côté syndical, du côté des partis politiques, du côté des communautés, du côté des milieux d'affaires, des milieux communautaires, tout le monde. On était, ben, je pense, pas moins de 80 autour de la table. Alors, on a fait cette convocation-là, on a préparé ça par une analyse et une présentation des problèmes que nous avions. Puis on a fait le tour de tous les problèmes, y compris l'éducation, la main-d'œuvre, etc., mais évidemment en commençant par les finances publiques, du chômage et tout. Et on a tout déposé sur la table, dans un geste de transparence rarement vu. Tout, quand on dit tout. Alors les gens ont pu voir exactement où on était dans tous les domaines. Puis on a fait des présentations, évidemment. Et là, honnêtement, du côté syndical comme du côté des milieux financiers, puis du côté des employeurs, il y a eu un consensus. Mais les gens ont dit, c'est vrai, on ne peut pas continuer comme ça. On va frapper le mur. C'est une question de l'intégrité de l'État, de la capacité d'avoir un État qui pourra rencontrer ses missions essentielles. Un État en faillite, ça ne peut pas rien faire de bon. Alors oui, tout le monde était d'accord. Et là, on s'est entendu. Tout le monde autour de la table, publiquement, c'est télévisé. Ça a duré 2 ou 3 jours, je ne me souviens pas, peut-être seulement 2 jours, enfin, peut-être 3. Et à la fin, on s'est entendu, puis on l'a annoncé, qu'on allait déclencher un programme de réduction des dépenses publiques et, si possible, d'amélioration des revenus. Mais à l'époque, ce n'était pas tellement des revenus là, qui était la possibilité d'intervention. Donc, un programme de réduction des dépenses publiques pour permettre d'atteindre le déficit zéro en 4 ans, je crois. 4 ans. Puis un vrai déficit, là. De pas seulement que l'opérationnel, puis l'épicerie, puis continuer d'emprunter. Non, tout. Les investissements et tout. Alors, c'était un engagement, évidemment, qui a été jugé par la suite excessif, parce que ça nous a obligés à poser des gestes qu'on percevrait aujourd'hui comme excessifs aujourd'hui. Je ne pense pas qu'un gouvernement pourrait faire ce qu'on a fait. On a fait des coupes énormes. Regardez les statistiques, là, les dépenses. Comme ça, c'était incroyable ce qui est arrivé. Incroyable, on l'a fait. Mais on n'avait pas le choix. Si bien qu'au bout de 3 ans, on avait atteint le déficit zéro. 3 ans, on l'avait atteint. Et que là, après ça, on était dans un surplus. Alors, je peux vous dire, si jamais vous êtes dans un gouvernement, gérer le gouvernement et l'État avec des surplus, c'est pas la même chose que de les gérer avec des déficits, hein? Je peux vous dire ça, hein? Pas pareil. Tandis que quand on a un surplus, quand on a des états financiers sains, on peut prendre des décisions, on peut créer un programme, on peut intervenir, on peut colmater une brèche, on est un vrai gouvernement. Mais quand on est en déficit, tout ce qu'on peut faire, c'est de couper. C'est-à-dire qu'on coupe, mais il n'y aura pas de diminution de service, personne ne vous croit, évidemment. On vous coupe, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, personne ne vous croit. C'est pas vrai qu'un gouvernement qui est en déficit va continuer de rendre les mêmes services avec les mêmes revenus. Mais non, c'est de l'arithmétique simple. Alors, c'est ce qu'on a fait, mais je peux vous dire, c'était tellement rendu loin qu'après avoir pris cet engagement consensuel et annoncé, là, on allait recevoir les notations, nos bulletins, là, au printemps, les agences de notation. Et la veille de la publication, je ne sais pas si c'était Moody's ou Standard & Poor's, mais juste la veille, il y en a un des deux qui nous a envoyé un projet de communiqué qui serait émis le lendemain. Il annonçait qu'il nous décotait encore. Et là, c'est le désastre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à New York tout de suite, le lendemain matin. On ne voulait pas le faire publiquement parce que là, ça aurait inquiété les gens. Alors, on a loué un avion privé. Et puis, on est allé. Je suis allé avec le sous-ministre des Finances, 2 ou 3 personnes, pas plus, en catimini. Puis on est rentré dans les bureaux à New York le matin. Et puis là, on a comparu, parce que moi, c'était comme une comparution, devant le comité, là, des 4 personnes. C'était en général des jeunes, Puis les jeunes allumés, là, avec les crayons, là, puis les ciseaux, là. Ils connaissaient les états financiers du Québec parfaitement. Parfaitement, bien, tu sais, aussi bien que nous autres. Puis je me rappelle, ça a duré au moins 2 ou 3 heures. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils disaient non, on ne peut pas, regarder. Ils disaient, Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect qu'on vous doit, depuis 40 ans, sans aucune exception, le gouvernement du Québec viole ses budgets. Ne respecte pas ses budgets. Alors, vous pensez qu'on va continuer comme ça? Non, là, là, c'est fini. Alors, bien, peut-être vous êtes sincère, mais comment on peut vous croire que vous allez réussir à atteindre le déficit zéro? Comment vous allez réussir, par exemple, à diminuer les salaires de tout le monde de 6 % Comment vous allez, tu sais, couper les budgets dans les hôpitaux, renvoyer les infirmières en retraite préventive? Comment vous allez faire ça? Voyons. Ben, on va le faire. Alors, regardez-nous, là, on veut le faire. Je me rappelle que j'ai enlevé ma cravate, il faisait chaud. Et je me suis rendu compte qu'un État souverain, c'est un État souverain aussi longtemps qu'il n'est pas à la merci de ses créanciers. Ouais. Un État qui est surendetté, puis qui risque même de ne pas être capable de remplir ses obligations de remboursement, et où le service de la dette devient monstrueux parmi les postes budgétaires, ben, c'est pas un vrai État. C'est un État qui rend des comptes à des créanciers et qui, de façon très impitoyable, parce que c'est les chiffres, là, peut intervenir, vous déclarer pratiquement les faux, etc., etc. Bon. J'ai bien réalisé ça. Je l'ai vu comme jamais. Alors, finalement, ils nous ont dit, écoutez, on va réfléchir. On est rentré à Québec. Et puis, je pense qu'en fin de journée, ils nous ont envoyé un télégramme disant, écoutez, c'est correct, on va pas vous décoter, mais on vous met sur observation. Alors, on savait là qu'il fallait marcher serré. Hein? C'est comme ça qu'on a tenu le coup tout le long. Mais c'était très, très difficile parce que c'est une chose d'obtenir un consensus au moment où la décision se prend, mais de vivre ensuite les conséquences des décisions qui en résultent, c'en est une autre. Alors, la population, etc., c'est des manifestations, des sondages qui plongent. Il faut tenir le parti social-démocrate qui aime plus dépenser que d'épargner. C'est un parti social-démocrate. Un parti social-démocrate, ça veut dépenser, ça veut dépenser. C'est très impopulaire. Tu sais, c'est mal perçu, les coupures. Là. Les coupes, c'est mal perçu. Convier des gens, geler des programmes, couper ici, couper là. J'ai fermé un très grand nombre de délégations du Québec à l'étranger. Pour le Parti québécois, c'est pas bien bon. Parce que le Parti québécois aime ça... poser des gestes d'affirmation nationale, internationale, etc. Bon, moi, je me suis senti obligé parce qu'il fallait couper partout. Il y a une place où on n'a pas coupé, c'est la culture. Mais tout le reste, on a coupé. Et on a vécu avec ça. Alors, c'est... Oui, ça a été difficile. C'était extrêmement difficile. On est obligé, pour ne pas être obligé, parce qu'on avait un projet de loi déposé, qui aurait réduit les salaires de 6 % imaginez, de toute la fonction publique. Puis, on l'a fait pour les députés, par exemple, puis les ministres. Mais le projet était en discussion à l'Assemblée nationale, il allait être adopté, puis là, les syndicats sont venus me voir, puis ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, etc., il faut trouver une solution. Et la solution qu'on a trouvée, justement, il y avait un gros surplus dans les programmes du REGOP. Un gros surplus, beaucoup d'argent, des milliards. Alors, ce qu'on a décidé de faire, on a fait 50 % de la réduction qu'il nous fallait dans les surplus, puis un autre 50 % dans les mises à la retraite prématurées. Puis ça a permis d'équilibrer le budget. Ça a permis de nous lancer vers un respect des programmes qu'on avait établis pour atteindre le déficit zéro. Alors, les gens disent aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait. Ils ont diminué le nombre d'infirmières. C'est pas aussi rêvé qu'aujourd'hui, par exemple, le nombre d'infirmières, mais quand même. Tu sais, ils ont fait couper ci, ils ont coupé ça, ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, ils ont peur de prononcer le mot austérité. Le mot austérité, tu ne peux pas prononcer le mot austérité. Austérité, ça ne veut pas dire couper, là. Ça veut dire je vais resserrer rigoureusement. Même pas ça, tu ne peux pas le dire. C'est épouvantable. Ça, moi, je me rebelle personnellement contre ça, là. De ne pas avoir le courage de dire, quand on est mal pris, on va gérer avec rigueur et avec austérité.
On est rentré dans le vif du sujet assez rapidement avec ces deux premières questions-là. Donc, je vous avertis, je vais prendre un assez gros pas de recul parce que c'est quand même une partie de nos discussions avec nos invités.
Oui, mais c'est l'entrée en matière.
Effectivement. Et c'est ce qu'on voulait aussi comme début d'épisode. Mais on veut quand même parler de vos débuts. Donc, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre famille, l'influence de vos parents, puis également ce que vous qualifiez des années classiques et des années effervescentes dans votre autobiographie?
Un début modeste. Le soleil s'est pas levé sur mon berceau, puis dire, ah, comme pour César, ou pour... Non, je suis... Bon, moi, je me sens... Je pense que mes origines sont modestes, comme elles le sont en général, pour tout le monde. C'était en 1938, on sort de la crise, on est sur une ferme, les gens ne sont pas riches, et c'est la ferme de mon grand-père. Mon grand-père qui a été défricheur, il a défriché la ferme. Il l'a eu en cadeau de son père, mon arrière-grand-père, quand il s'est marié, une terre en bois de boue, comme on dit. Mais pas très, c'est pas de la terre très agricole, très fertile. Mais quand même. Mais sauf que c'est à celle-là, avec s'est marié, puis il a coupé des arbres. Il a planté, il a arraché les souches. C'est compliqué à arracher les souches. Je ne sais pas si vous le savez. Une souche, ça ne prend pas le jour où vous l'avez coupé l'arbre. Hein? Ça prend du temps et des efforts. Puis alors finalement, il a agrandi, il a fini par défricher des centaines d'arcs, mon grand-père. Des centaines d'arcs. Une immense ferme. À la fin, il y avait 1000 arcs. Dont certains ont été achetés par la suite, déjà défrichés, mais initialement, c'est lui. Ouais, c'est pas une première maison.
Que mes aïeux ont fait la chance.
Non. Non, mais donc, vous voyez, une famille très traditionnelle, là. On a vécu, nous autres, c'était une épopée. Mon grand-père était fier de lui. Et quand il est arrivé jeune, il y avait... Tu sais, les lots au Québec, c'est 100 arcs, hein? C'est 1 000 de long. Puis le reste du centre, c'est bon, quelques centaines de pieds de largeur. Puis ça donne sur un rang. Ça aboute sur le fond d'un autre rang, d'autre côté. Donc, il y a deux lots, puis il y a des rangs. Bon. Et alors, mon grand-père, son rêve, c'était qu'on puisse voir à l'autre bout les voitures qui allaient passer. Puis, à la fin, il les voyait. Alors, moi, j'arrive au monde dans ce contexte-là. Là. Mon père est le cinquième de la famille, famille de 12. Ils sont sur la ferme. Graduellement, les fils s'en vont, parce que la ferme, il n'y en a pas pour tout le monde. Après, l'héritage, il y a un seul qui a hérité à la fin. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie et tout, pour faire vivre une famille, finalement. Tu sais. Ils vivent pas riches, les fermiers. En tout cas, à l'époque, là, on était loin de ça. Là. On était loin. Et Duplessis venait juste de lancer ses programmes d'électrification rurale, des programmes de crédit agricole. Ça n'existait pas avant, crédit agricole. Ils ne pouvaient pas emprunter, si tu veux. Et Duplessis a créé un programme. C'est pour ça qu'ils ont toujours voté Duplessis. Les agriculteurs ont toujours voté Duplessis. Mais il n'y avait pas l'eau courante, il allait casser l'eau, il n'y en a plus à côté. Difficile, là. L'eau gelait dans les bassins l'hiver, le matin, quand ça devait. Ça, mon père m'a toujours raconté ça. Mais moi, j'ai poté longtemps, parce que mon père n'aimait pas la ferme. Pas sûr qu'il y en avait autant que ça qui aimait ça aussi, là. C'était dur, hein. Et alors, quand j'avais 2 ans, moi, j'étais l'aîné de la famille, quand j'avais 2 ans, ils ont décidé de s'en aller à Jonquière. Si vous connaissez la région, là. Il y a le lac en haut, puis il y a le Saguenay qui descend. Nous, on était sur le bord du lac, à 5 heures de Marie, puis Jonquière, c'est une des premières villes, là, sur la route, sur le fleuve qui conduit jusqu'au Saguenay. Alors, il y a Jonquière, Vida, Scutimi, Labbé, etc. Bon. Alors, à Jonquière. Pourquoi Jonquière? Parce que un de mes oncles qui était parti avant lui, il y en avait aussi assez de la ferme. Il est parti, il était menuisier. Il n'a pas suivi un cours de menuisier, mais il y avait des dons, puis il y avait... En tout cas, il était menuisier. Il était engagé à Jonquière dans une petite boutique. Et puis, c'était un homme d'affaires, manifestement entrepreneur. Il a acheté la boutique, finalement. Il l'a grossi. C'est devenu pas de Vin Bouchard, la plus grande. Il contrôlait toute la grande galerie dans la région, la construction, le bois, et tout. Bon, il y avait un homme d'affaires. Et mon père, alors qu'il était en train de monter son entreprise, mon père... Et est allé à Jonquière et a travaillé avec lui. Il travaillait comme livreur, mon père. Mon père était avec un cheval, chevreux, qui s'appelait. On peut être tout seul. Dans les papiers familiales, on sait tout ça. Alors, puis il est arrivé d'autres enfants dans la famille, à Jonquière, puis finalement, on est devenu cinq, trois autres fils et une fille. Puis on est arrivé à Jonquière. Où j'ai fait mon cours classique. Pourquoi j'ai pu faire mon cours classique et pourquoi mes frères ont pu le faire aussi? C'est parce qu'on ne pouvait pas aller au séminaire de Chicoutimi. Ça, c'était l'argent, là. Le séminaire de Chicoutimi, ça, c'est d'abord l'argent, le pouvoir régional, là. L'aura, c'était à Chicoutimi. Une belle capitale, tu sais, les beaux édifices publics, le séminaire, l'évêché, tout ce qui comptait était là. Et nous, on ne pouvait pas aller au séminaire parce que c'était les fils de marchands, les fils d'avocats, les fils de médecins. Pas les filles, parce que... Bon, à l'époque, il n'y en avait que pour à peu près que pour les garçons. Quoi qu'il y avait peut-être un endroit, je continue, où les filles pouvaient faire leur cours classique, mais ça, c'était pas généralisé. Alors, c'est les Aublats, c'est les frères du Sacré-Cœur d'abord, puis les Aublats qui ont fondé le collège de Jonquière, qui est un collège classique. Et eux autres, ils recrutaient les étudiants dans Jonquière, Kénégami, Arvida. Jonquière, Kénégami, on traverse la rue, puis c'est Kénégami. C'est là qu'étaient les moulins à papier. Puis à quelques kilomètres plus vers le nord, vers le sud, pardon, il y avait Arvida, où l'Alcan avait établi ses usines. Ça, c'était ouvrier. Là. Ça, c'était... C'est démographiquement important dans la région. Puis c'était les ouvriers, les villes ouvrières. Et là, le collège de Jonquière recrutait ses élèves dans ce bassin-là. Il en prenait... Moi, quand j'ai commencé l'élément, il en prenait une trentaine par année, à peu près. Alors, tout le monde appliquait. Tu sais. Puis tous les premiers classes du coin l'appliquaient. Puis on choisissait 30. Puis là, on pouvait faire les cours classiques. Moi, j'ai eu la chance d'entrer là. Je n'aurais pas eu ça. Je n'aurais pas fait des études supérieures, c'est sûr. Non plus que mes trois frères qui ont tous fini à faire des doctorats en Europe. Mais ça commence là. Ça commence là. Notre père était un camionneur. Travaillait comme un forcené. On ne l'a jamais presque vu à la maison. Il partait le matin avec son camion avant qu'on se lève. Il arrivait le soir, on était couché quand j'étais petit. Il travaillait samedi, il n'avait jamais de vacances. Un jour, il a acheté une voiture. Bien longtemps après, on n'a pas eu de vélo, nous. L'argent, c'était pour éduquer, parce que mes parents avaient décidé qu'on allait étudier. Ça, c'est une constante dans ma vie, dans la vie de ma famille. Les enfants, il fallait étudier. Il n'était pas question de ne pas faire des études. Non, ça, jamais ça. Ça, c'était pas... Il n'y avait qu'une voie, c'était celle des études, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse leur vie. Puis ça, c'est beaucoup le Québec qui s'est construit comme ça. Dans beaucoup de familles du Québec, elle s'est construite comme ça. Il y a des générations qui se sont sacrifiées pour envoyer leurs enfants aux études, puis essayer d'élargir les horizons pour tout le monde, puis de leur épargner toutes les avanies, les vies très pauvres et besogneuses qu'ils menaient. Et nous, on en a profité, comme bien des générations de Québécois, puis nos amis, ils nous ont suivis tout le temps jusqu'à la fin, bien, ils viennent de ces milieux-là, très rarement d'autres milieux que ceux-là. Puis ça se reproduit peut-être aujourd'hui encore, puisque la chaîne continue. C'est une belle chaîne, c'est une chaîne qui construit et qui fait appel à l'effort personnel, au dépassement personnel, où on n'attend pas toujours tout du gouvernement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement aujourd'hui, sinon que des taxes puis des diminutions de services? Hein? Est-ce d'autres choses que ça qui nous attend du gouvernement? Honnêtement, là? Quand on sait dans les cas où est le gouvernement, puis des discours de communicateurs. Oui?
Un national,
en fait, ces discours-là.
un outil important qui a une place importante dans votre parcours, puis qui doit être dû justement au fait que l'éducation est extrêmement valorisée chez vous. C'est encore quelque chose que vous valorisez beaucoup aujourd'hui.
C'est au centre de tout, l'éducation.
La lecture?
Bon, donc, la vie de l'esprit. Et puis, quand on se demande, oui, mais quel moment avez-vous décidé de prendre un engagement public ou... Il n'y a pas eu de moment. Il y a eu simplement une constante de préparation. Puis la préparation, bien, c'est ça. c'est étudier, lire, s'informer, analyser, comparer, se définir par rapport à ça, se fixer des objectifs, déterminer des gens qu'on voudrait plutôt imiter que d'autres. Mais pour ça, il faut lire, il faut connaître les générations, il faut remonter l'histoire. Et puis d'avoir une formation, c'est la bénédiction, je pense, pour moi. Pour moi, c'est la grande révélation de mon évolution, la découverte des humanités classiques. Nous, on a été formés aux humanités classiques. On faisait l'élémentaire, 7 ans, il y avait 7 années d'élémentaire. Puis après, on allait au cours commercial. Normalement, le cours commercial jusqu'à la 12e année, pour ceux qui continuaient après. Mais on pouvait prendre une autre voie qui était très élitiste, c'était changé par les cégeps, qui était la voie des humanités classiques, c'est-à-dire le cours classique, dans des institutions qui dispensaient le cours classique. Moi, c'était la chance que j'ai eue, mes frères aussi. On a eu cette chance-là. Ma sœur, elle ne l'a pas eue, parce qu'il n'y avait pas de cours classique qu'on avait pour les filles. Même si, à mon avis, c'était un peu intelligent de la famille. Mais c'était le cas de l'époque, hein, vous savez. Oui, alors la préparation. C'est ça, la préparation. La préparation, c'est vague, c'est large. C'est ça, on ne sait pas où ça va nous conduire. Mais s'il arrive quelque chose, on va être prêt. Enfin, autant que possible.
Ensuite, vous avez poursuivi vos études à l'Université Laval.
Oui, après ça, quand on a fini le cours classique, là, il fallait s'orienter. Ouais. Moi, j'ai eu des difficultés à m'orienter. Ça n'a pas été la période la plus transparente, la plus claire de ma vie, en tout cas.
Ouais.
Parce que, une famille religieuse, hein? J'avais des oncles prêtres, une multitude de tantes religieuses. Mon père était 12, je vous l'ai dit. Puis il y avait 5 filles, 7 gars, 5 filles. Les 5 filles ont pris le couvent, sont jamais sorties. Une sœur. 5 sur 5.
Ah oui.
Ouais. Puis j'ai une de mes grandes tantes qui avait fondé une communauté, puis des prêtres, des sœurs, puis des cousins, c'était plein. La maison, on vivait dans ce milieu-là. Hein? Puis ma mère était organiste à l'église, quoique pas tellement religieuse quand j'y pense, mais elle était toujours à l'église, à jouer les arts, à jouer les mariages, les funérailles. Nous, on chantait, parce qu'on aimait le chant dans la famille, on faisait la musique, il y avait beaucoup de la musique. C'est pour ça qu'il y a un orchestre, qu'il y a un des orgues à la maison symphonique. Quand ils ont voulu construire...
Du CA, c'est ça?
Oui. Quand ils m'ont montré les plans, les mesures symphoniques, je me suis dit, oui, où sont les orgues? Il n'y aura pas d'orgue. Il n'y aura pas d'orgue. Mais non, il y a un coup de fer, les orgues, puis écoute, les orgues, les églises, là, puis les orgues... Là. Oui, mais il y a un répertoire classique important pour les orgues. C'est un instrument de musique le plus ancien, peut-être, de l'histoire de la musique et tout. Hein. Non, il n'y aura pas d'orgue. Mais non, je dis, creusez le trou, ça prend c'est grand. Si vous allez visiter, vous allez voir ça, c'est immense. Il y a 6000 tuyaux là-dedans. Ça commence par des petits, puis des tuyaux de 30 pieds d'or. Hein, je dis, creusez le trou, on va trouver l'argent. Je dis, voyons, si on creuse le trou, vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Non, creusez le trou, on va ramasser l'argent. Okay? Puis Monique Forget, c'est une digression, mais je reviendrai, qui était la ministre des Finances, puis qui aimait beaucoup la musique, et grâce à elle en partie, et à Jean Charest. Jean Charest, qu'on a vu la maison symphonique, a dit, non, ça a coûté assez cher maintenant. Là, puis à part de ça, vous allez nous promettre que si on creuse le trou, vous n'allez pas nous revenir puis demander de l'argent encore, parce que je vous connais, vous allez voir Jean Charest, vous allez demander de l'argent, puis non, il dit, non, je vous promets que je n'irai pas vous demander de l'argent, on va ramasser, ça prenait 5 millions, en tout cas, on l'a trouvé finalement. On a trouvé 5 millions chez M. Demarais qui l'a mis sur la table. Ouais. Mais donc, je me disais, c'est pas possible qu'on construise la grande salle de concert dont tout le monde rêve depuis longtemps à Montréal, au Québec, puis qu'on n'ait pas d'orgue dedans. Je pensais à ma mère. Il y a des orgues. Des fois que j'y vais, là, regarde ça, je pense à ma mère. Personne ne le sait.
Il y a 2 semaines, puis je réalisais à quel point c'était une belle salle et l'acoustique.
L'argent était mis dans la salle en dedans. L'extérieur est quelconque, c'est pas une œuvre architecturale. On aurait pu si on avait eu l'argent, parce que Kent Nagano était très ami avec Frank Gehry, le très grand architecte d'origine canadienne, mais international. Gehry a fait des choses fantastiques. Alors, il aurait été intéressé, Gehry, mais ça aurait coûté 100 millions de plus. Tu sais, enfin, ouais. Alors, on a mis l'argent dans la salle, avec des...
Ça
faut enlever le voilà. Peut-être qu'il faut enlever le technicien.
Ouais. Faut juste changer de piste audio.
Ouais. Désolé. Écoutez, la digression a commencé au moment où vous m'interrogez sur mon passage à l'université, puis je vous ai dit qu'il y avait des problèmes d'orientation. Oui. Et que t'es famille religieuse, c'est pour ça que je devais faire un prêtre. Dans une famille québécoise de l'époque, on disait, une sorte de dicton qui courait, une femme qui était mère d'un fils prêtre voit son salut assuré. Alors nos mères, il y en voulait un. pas parce que je pêchais beaucoup, mais...
Il en fallait un par famille, c'est ça?
Il en fallait un. moi, c'est tombé sur moi, j'étais l'aîné, tu sais. Puis moi, j'étais un étudiant studieux, j'avais pas de filles dans la maison, là. Puis parce que les filles, c'est dangereux pour la vocation, parce que vous le savez, hein? Très dangereux. Il y a beaucoup de vocations qui sont détruites par l'arrivée de filles dans le portrait. Alors, et tout le long de mon cours classique, moi, j'étais un prêtre, puis tu me préparais, puis bon. Mais à un moment donné, les choix, on les fait en philo 2, hein? C'est à la fin de la dernière année, là, au printemps, il y a une grande cérémonie au collège, dans la grande salle des fêtes. Là, il y a une tribune, il y a les parents, les notables de la place qui sont invités, tout le monde est présent. Et puis là, les finissants, un par un, montent sur la scène, puis ils choisissent un ruban, qui sont empilés par couleur. Puis chaque couleur correspond à un choix. Mais moi, je devais faire un choix, c'était blanc, prêtre, blanc. Tu sais. Ceux qui choisissaient blanc, là, standing ovation dans la salle, bien sûr. Au début des années 50, au séminaire de Chicoutimi, il y avait encore plus que la moitié des finissants qui choisissaient la prêtrise. Ouais. C'est gros, là.
Puis la révolution tranquille, c'est juste 10 ans après, en plus.
Ah oui, ouais. La révolution sexuelle aussi, tu sais, tout. Ouais. C'est gros. Mais moi, dans les derniers mois, là, avant l'arrivée de la prise de ruban, là, j'ai eu une crise de conscience. Là. Et... Non, c'était pas pour moi. Là. Je me voyais pas là, tu sais. Même si le Monseigneur Morin avait convoqué mes parents dans sa chambre à messe, moi. Dans la sacristie, il avait mis sa barrette sur ma tête. Il m'a dit « Lucien sera notre fils cardinal. » Ma mère, écoute, ça n'a pas amélioré mes affaires du tout. Alors, j'ai décidé de ne pas faire un prêtre. Puis là, quand je suis arrivé au choix, j'étais tout mêlé. Là. Tu sais, je ne savais pas quoi faire en réalité. Alors, j'ai pris le ruban de la médecine. J'étais admis en médecine, mais j'étais tout traumatisé. Puis là, j'ai fait le tour des facultés à Québec, là. Puis d'après, je n'étais pas souvent allé à Québec. Hein. C'est la troisième fois que j'allais à Québec dans ma vie. Une fois pour voir le bourgeois Cantillon, comme une française qui passait à Québec, au Capitole. Une autre fois pour aller au zoo. Il y avait un beau zoo à Québec. En tout cas, bon, on n'est pas souvent à Québec. Alors là, je suis allé un peu avant, puis là, je me suis fait inscrire en littérature, en génie, et puis là, comme je faisais un fou de moi, là, tu sais, puis je savais que j'étais inscrit en médecine. Alors, je suis allé en médecine la première journée, ils nous disent, on va commencer par la salle de dissection. Ils nous ont emmenés dans la salle où il y avait des bassins, plein de formol, dans lesquels flottaient des cadavres, puis là, il fallait, ça sentait mauvais, il fallait, ouais, moi, je suis parti, c'est fini. La carrière médicale, j'ai terminé à ce moment-là. Ouais, puis là, j'étais vraiment honnêtement perturbé. Là. Je vous le dis, j'étais un jeune garçon qui ne savait pas où il allait. Là. Tu sais, j'avais un de mes amis qui, lui, était en sciences sociales. J'étais très proche de lui. Il dit, tiens, pense donc aux sciences sociales. Parce que, à l'époque, en tout cas, après un an, tu avais le bac. Tu avais un bac en sciences sociales après un an. Et là, à partir de là, tu pouvais aller soit vers devenir un économiste ou un sociologue. Il y en avait 3 ou 4, là, des choix. Alors, je suis allé là. J'ai fait un bac en sciences sociales, puis dans le cours de route, là, tu sais. Puis là, j'ai décidé de faire mon droit. J'ai l'endroit.
Puis vous parliez de l'importance des gens qui vous entourent aussi. Je pense que quand vous avez fait votre droit, vous étiez entouré d'une promotion de gens qui allaient devenir des personnalités ouais. importantes au Québec et au Canada.
Oui. C'est une année assez spéciale. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. En tout cas, un des facteurs qui fait que c'est une année différente, une classe différente, c'est que là, on est au début des années 60. On est en 60. Moi, je fais mon bac en sciences sociales de septembre 59 à l'été. Et là, l'été, ben, c'est l'été 60. En juin, les libéraux se font élire. Donc, l'arrivée des libéraux. Écoute, c'était Duplessis, 30 ans de pouvoir Duplessis, puis 40 ans de pouvoir libéraux, puis que libéraux encore plus corrompus que... Faut pas oublier ça, hein? Les libéraux, là, de Taschereau, étaient plus corrompus encore que Taschereau. Certainement autant corrompus. Tu sais, c'était les gouvernements patronage, corruption. Bon. Alors, les libéraux de René Lévesque, Carl Lesage, Kearns, un nouveau message, des engagements sociaux-démocrates, des engagements de construire le Québec, etc., sont élus en juin. Puis moi, là, je suis à l'université, là. J'arrive à l'automne. En droit. Et puis là, ben, c'est comme une renaissance hein, au Québec, là. Et c'est le moment où beaucoup de grandes familles anglophones de Montréal, des familles riches de Montréal, des grands noms, là, décident d'envoyer leur fils étudier à Laval, en droit. Il y en a au moins une douzaine de ces familles-là. Et tout à coup, il arrive plein d'anglophones de Montréal à la faculté de droit, c'était jamais arrivé à Laval. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient arriver un nouveau Québec. Ils voulaient que leur fils fasse partie de ce nouveau Québec-là. Et la meilleure façon, c'était de les envoyer étudier dans le Québec francophone profond, enfin, profond, tu sais, Québec. Parce que le Québec, à ce moment-là, c'est la faculté de droit recrutait ses étudiants de la ville de Québec d'abord, bien sûr, mais de tout le Québec de l'Est, à partir de Trois-Rivières. La ligne, c'est Trois-Rivières. Duplessis a fait son cours à Laval. Grand Lesage, chrétien, à Laval. Trois-Rivières, en descendant, puis là, tu avais la Gaspésie, l'Estrie, la Vitibie, Saguenay-Saint-Jean, des séminaires. Tous les finissants des séminaires qui allaient en droit affluaient à Québec, puis c'était extrêmement francophone, évidemment. Alors, cette année-là, il y avait une bonne douzaine d'anglophones de Montréal qui sont retrouvés dans la classe. Alors, des gens comme moi, pour on était la majorité, on n'avait presque jamais vu d'anglais. On savait qu'il y en avait. On savait qu'il y en avait Arvida, c'était les boss, puis Kanagami, c'était les boss, mais on les voyait pas. Alors, tout à coup, on se retrouve dans la classe avec ces gens-là, qui étaient tous. Il y en a qui arrivaient d'Europe, ils avaient étudié le français, on y parlait un français impeccable. D'autres, on était. C'était un choc. Mais un choc qui était très positif, dans le sens que, ben là, on s'est parlé, on s'est connu, la distance est abolie, on est devenus amis. Et c'est comme ça que cette classe-là, je pense, a beaucoup profité d'un enrichissement, là, d'un mélange de gens qui, au fond, avaient l'objectif de réussir au Québec, tu sais, puis de faire ça pour que ça marche, le Québec, le nouveau Québec qui se construisait. Et puis on avait une attitude très positive aussi. Et on aimait les politiciens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes aiment les politiciens? D'après moi, non. Ils n'aiment pas. En général, les citoyens n'aiment pas beaucoup quand on fait les sondages, pas beaucoup les politiciens. À l'époque, quand on était jeune, ben on savait que René Lévesque, et puis Gérard Lajoie, et Jérôme Choquette, que Kearns, que Jean Lesage, ils étaient en train de construire un nouveau Québec pour nous autres. Ils construisaient pour, on savait que c'est nous autres, là. Puis c'était le cas aussi. Nous, on finissait notre cours, il n'y avait pas question de faire une course au stage. On choisissait notre employeur. On avait des offres. Tu avais 4, 5, 6 offres de possibilités. C'est toi qui choisissais. Avant même de faire des entrevues, on n'était pas nombreux, hein? Pas nombreux, des finisseurs. C'était donc très élitiste à l'époque, il faut en convenir. C'est pour ça que les cégeps sont venus après. Mais, alors nous, c'était une période de grâce. Bon. Puis moi, je ne voulais pas forcément faire le droit. Je voulais faire le droit, mais je voulais pas pratiquer le droit. Je voulais écrivain, journaliste. Ça me tentait beaucoup, ça. J'avais fondé le journal au collège de Jonquière. Puis je suis devenu, quand je suis arrivé à Québec, devenu rédacteur en chef du journal d'étudiants de Laval. À la faculté de droit, j'étais rédacteur en chef des cahiers de droit. C'était la plume, c'était important pour moi. C'est sûr que c'était une période fantastique, là. Puis tous les jeunes dans notre classe rêvaient de faire de la politique. Tout le monde voulait faire de la politique à l'époque, là. Tout le monde voulait mettre sa main à la part puis participer à la construction qui se préparait. Donc, on fréquentait les politiciens dans les restaurants parce que, dans le temps, la faculté de droit était dans le Vieux-Québec, à Québec. Dans le Vieux-Québec. Alors, on allait manger, on était dans un restaurant qui fréquentait les politiciens, les avocats, à Alors, on rencontrait ces gens-là. Puis, comme on était étudiants en droit, les politiciens ont toujours eu un faible pour les étudiants en droit. D'abord, à l'époque, c'était surtout des avocats, les politiciens. Et puis, ben, un étudiant en droit, ben, ça peut t'aider dans une campagne électorale, ça peut faire des discours, ça peut être, tu sais, intéressé par la chose publique. Alors, on fréquentait l'Assemblée nationale pour, à la période des questions. On allait au palais de justice assister aux grands procès. Il y avait des grands procès à l'époque, là, je pourrais vous en parler, on n'a pas le temps. Donc, on allait là, disons, puis René Lévesque, je l'ai rencontré dans le restaurant. Il était dans la ville, il vivait là. Il faisait partie de ce qui se préparait.
Qu'est-ce qui fait que ça a autant changé aujourd'hui?
Ben non, écoute, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des changements. Je ne dis pas que c'est pour le pire, là, souvent c'est pour le mieux. Parce que je pense que l'enseignement du droit aujourd'hui, c'est plus professionnel que ça l'était à l'époque. C'est plus sophistiqué, plus élaboré. Mais il reste qu'on faisait partie de la vie. On était dedans. Et puis, on aimait ça aussi. À l'époque, il y avait deux clubs sociaux, le club de la Réforme puis le club Renaissance. Deux clubs qui avaient des pignons sur rue sur Grande Allée, dans des anciennes mansions. Les partis politiques avaient de l'argent, ils achetaient des grandes mansions. Et puis, ils s'installaient là, ils faisaient des grands dîners, ils invitaient des conférenciers, puis ils nous invitaient nous autres. Alors, un soir, on allait manger au club Renaissance. Le prix à payer, c'était d'écouter un orateur au Union nationale durant leur repas. Puis, au club de la Réforme, ben ça, c'était un orateur libéral. Ouais, puis, ça faisait partie. Puis, il y avait les tavernes, où les filles n'avaient pas accès. Les tavernes sur le terrazzo, là. Ça, il y en avait trois ou quatre, là, le Colon, Porte-Saint-Jean, en tout cas. Alors, ça, on avait beaucoup les tavernes. On jasait, on criait, on faisait le fou. Tu comprends bien, on était jeunes. Puis, on prenait de la bière à draf. Ça se vendait uniquement dans les tavernes, la bière à draf. Avec des huîtres, là, puis des langues de porc, puis des œufs d'un bocaux, là, puis tout l'histoire. C'est la jeunesse, c'était la vie. On vivait. Je te jure, c'était la vraie. On brassait, là. Par exemple, je me rappelle, on rencontrait des politiciens, exemple. Philip Johnson, qui est ici. Ouais. Son père, Daniel. Le grand-père, un autre Daniel. Ouais. Mais le Daniel du début. Ouais. Et à l'époque, Daniel Johnson, quand j'étais à Québec, il était chef de l'opposition. Alors, un soir, on est allé manger justement un steak, comme je fermais le steak autrement que dans les clubs, au club Renaissance. Puis c'est Daniel Johnson qui faisait le discours, qui faisait l'opposition. Puis on était 4-5 de mettre là. Brian était là aussi, je me rappelle. Puis là, ben, c'était l'été de printemps. T'sais. On sort de là, puis on est dehors sur le perron, là, au pied de l'escalier. Et puis c'est le printemps, puis c'est Québec. C'est beau, Québec. Moi, c'est des beaux souvenirs de jeunesse que j'ai. C'était le fun, là. Moi, j'avais un journal à faire, il fallait qu'il sorte le mercredi. Puis, on travaillait, on courait, puis on faisait des bonnes études. Moi, j'ai toujours travaillé fort aux études. Alors, qu'est-ce qu'on voit arriver en haut de l'escalier? Daniel Johnson, le père, le grand-père, il descend, puis on va en bas, il nous regarde. Ah, il était très sympathique, Daniel Johnson. Le grand-père de Philippe, là, très sympathique, là. Très, très. Alors, vous êtes sûrement des étudiants en droit où on avait des cravates. On était les seuls qui avaient des cravates dans le temps. On était arrêtés pauvres, mais on se privait de manger plutôt que d'enlever la cravate. Puis là, on s'est mis à jaser. Puis il nous a raconté une histoire. Je me rappelle l'histoire qu'il nous a racontée. Il nous a raconté une histoire. Ah oui. Écoutez, il dit, ça se passe dans une paroisse, dans une campagne électorale. C'est le dimanche. C'est la grand-messe. En pleine campagne électorale, puis ça chauffe. Le curé monte en chaire. C'est plein de monde. Tous les agriculteurs, des fermiers, dans la nef. Le curé monte en chaire. C'est à l'époque qu'il montait dans la chaire. Puis là, le curé, il fait une sortie. C'est une campagne électorale épouvantable. Il y a les rouges. Si vous votez pour les rouges, c'était les bleus. Les curés étaient bleus. Ils étaient tous bleus, les curés, en général. Alors, si vous votez pour les rouges, on va marcher dans le sang jusqu'aux genoux. Puis il y avait un fermier en bas, puis il regarde le curé. Non, non. Comment? Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous ne croyez pas ça qu'on va marcher dans le sang jusqu'aux genoux si vous votez pour les rouges? Et on se chaussera pour. Johnson nous racontait ça. On riait. Hein? On choisait, là, comme ça, là, tu sais. C'était. Mais on a, je vous dis, on aimait les politiciens. Mon premier discours, moi, je l'ai prononcé à Québec, à la porte de... On disait du sauvage dans le temps, à la porte de l'Indien, vous savez? Mm-hmm. Vous connaissez ça, non?
Non, ça me...
Quand vous allez à l'Assemblée nationale, là, même si on changeait ça parce qu'ils ont creusé pour créer de l'espace additionnel, là, il y a une plateforme, là, juste avant, là. Il y a une plateforme, puis il y a une statue de l'Indien, là.
À côté de l'Assemblée nationale.
Juste en, porte, en face. En avant, là, où on entre, à la porte d'entrée. Là.
OK, ouais.
Et puis là, il y avait une manifestation étudiante. Les gens de Montréal étaient venus aussi. Parce qu'à l'intérieur, il y avait une conférence fédérale provinciale où était Pearson, les premiers ministres, tout le monde, les gens de chef, au pouvoir dans le temps. 63, je pense, c'était. Il était en train de discuter à l'intérieur la création d'une caisse de dépôt au Québec. Et puis le fédéral n'était pas pour, évidemment. C'est pas que le fédéral voulait avoir la sienne, sa caisse, il l'a eu aussi, mais il n'y a pas eu le Québec dedans. Mais c'était la grosse sujet de discussion. Puis de ça, il était en train de plaider pour qu'on ait la permission du fédéral, ça prenait l'accord du fédéral. Pearson était à l'intérieur, tout ça. Puis nous, on a fait une manifestation pour appuyer notre premier ministre. Imagine-toi. C'est là que j'ai prononcé mon premier discours. C'était ça, parce que moi, j'étais du groupe, là, des jeunes activistes, là.
Ouais.
Puis je me rappelle, j'étais à la télévision le soir, un coach, je m'étais vu à la télévision, criait, étudiant du Québec. C'était l'époque. Mais c'était toute une époque. Hein.
Ouais.
L'époque de la Révolution tranquille, la Renaissance du Québec. On avait des espérances, peut-être démesurées, tu sais, on voyait le Québec.
Puis rêver aussi,
vous deviez... Rêver, on rêvait. Ouais.
Vous avez parlé souvent dans certaines de vos entrevues d'une montée du cynisme politique, quelque chose qui vous fait mal, puis ça semble être en opposition à ce que vous racontez.
Ben, c'est plus récent.
Ouais.
C'est plus récent.
Qu'est-ce que vous pensez qui explique là?
Ben, le cynisme, c'est peut-être un mot fort pour dire la politique est moins exaltante qu'elle ne l'était. Les gouvernements n'ont plus les mêmes ressorts. Les enjeux sont plus complexes, il faut le dire. Puis il y a des phénomènes nouveaux, comme l'apparition des médias sociaux. Et ça, ça a changé la donne. Ça l'a changé... En tout cas, c'était pas commencé encore quand je suis parti. Moi, nous autres, à Québec, je me souviens pas, moi, que les médias sociaux étaient un problème pour nous autres. C'était pas un problème, ça. Aujourd'hui, ils écoutent ça tous les matins. Ils ont des équipes qui écoutent ça tous les matins, puis ils leur transmettent ça, puis ils préparent des réponses. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, ça colore, puis ça apporte une distorsion au débat public. Et puis, évidemment, ça incite pas à l'optimisme, c'est vrai. Puis c'est hargneux. Le ton des médias sociaux, c'est ordinaire, hein?
Ben, c'est un peu le Far West. Tout le monde peut devenir un cavalier
insultant,
du clavier.
Insultant, pas de respect, rien.
Il n'y a pas de conséquences à ce qu'on dit.
Ça propage la désinformation.
Oui. Vous parlez beaucoup de que vous vous demandiez ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune. Passons maintenant un peu de temps sur votre vie politique. On écoutait le reportage à Télé-Québec, je pense qu'il a été tourné en 2014, qui fait le tour de vos réalisations en politique. Et je voulais citer une phrase, puis je suis curieux de vous entendre là-dessus. Vous dites « Je ne voulais pas faire de politique. Personne n'a compris que je ne voulais pas faire de politique. Toute ma vie, j'ai résisté. Et encore une fois, je voulais résister parce que c'est trop dur, trop ingrat. Et on en sort toujours mal. »
La vie de parti. Je déteste les partis. J'ai déjà vécu dans un parti. L'obligation de penser comme le parti. De faire ce que le parti veut. Ça, moi, j'ai toujours eu des difficultés avec ça. Non, c'est vrai ce que tu dis. Quand je suis sorti de la faculté de droit, je voulais faire un avocat. Je voulais être un avocat plaideur. Je voulais être un avocat plaideur. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas l'idée de faire de la politique active. Je ne voulais pas faire de la politique active. Honnêtement, je ne voulais pas. Puis je l'ai démontré, j'ai refusé trois fois d'entrer en politique. J'ai dit non à Bourassa, non à René Lévesque, non à Mulroney. Bourassa en 1970, j'étais libéral à ce moment-là, moi, j'étais libéral, bon. J'étais libéral fédéral même, je pense que j'étais vice-président de la commission politique fédérale. J'étais actif comme citoyen, mais pas comme un élu, pas sollicitant des mandats électifs. Mais je me préoccupais beaucoup, là, je m'intéressais à la politique, je connaissais beaucoup de monde en politique, mes amis étaient tous en politique, alors tu sais, c'est sûr. Mais je voulais pas devenir un acteur politique. Alors, le comté s'ouvrait pour un candidat libéral. J'étais déjà avocat à Chicoutimi depuis 4 ans. J'ai commencé à être connu, tu sais, une petite ville comme Chicoutimi, là. J'étais plaideur et tout, j'étais actif. Puis les gens me voyaient comme candidat libéral. J'ai dit non. Parce que je voulais pas. Et en 76, M. Lévesque me fait venir à Montréal. Il m'a demandé de me présenter dans Jonquière. J'ai dit non. Puis en 84, 83, Brian est venu préparer la campagne de 84. Il est venu à Chicoutimi pour me convaincre. J'ai dit non. Non, je ne voulais pas. Vraiment. C'est vrai que je ne voulais pas. Je ne me sentais pas fait pour ça, en effet. Je me sentais... D'abord, j'étais encore très émotif. Je suis devenu moins. Mais j'étais beaucoup... Beaucoup de mes réactions. Et j'inspirais d'émotions. Et puis, j'ai impatience. Je ne me voyais pas contraint par les affaires de parti. Parce que je vous ai dit que j'étais actif politiquement, mais pas dans les partis. Je n'allais pas aux réunions de partis. Non, ça ne m'intéressait pas beaucoup, les partis.
C'est donc les caractéristiques...
C'est apparu quand je suis devenu chef de Parti québécois, parce que les gens ont bien vu que je n'aimais pas mon parti. J'aimais le monde, mais... Ce qui s'appelle la bébite de parti, là, les lignes de parti, les barons qui veulent tout contrôler par en arrière. Là, qui, tu sais, ça me... Bon, alors, c'est... Non. Alors, finalement, tu sais, dans le fond, je l'ai créé, mon parti, quand j'étais chef de parti, là, tu sais, le bloc. Ouais. Puis... Mais ça, c'est une autre histoire, le bloc. Ouais. Tu sais, c'est très lié avec les événements de... des relations avec le fédéral, Trudeau, la suite des choses. Tu tiens tout un enchaînement, là. Tu sais. Ouais. On peut en parler, mais c'est pas court, parce que ça commence au référendum de Lévesque, puis ensuite à la campagne de Trudeau pour se faire élire, amener tout le monde à Ottawa, mais surtout de faire d'imposer une constitution, une charte des droits, et puis... avec tout ce qui s'est ensuit, le référendum de 95 et tout, l'arrivée de Mulroney, ses engagements, Midge, en tout cas, tout est lié, là.
Vous diriez que de votre carrière politique, vous avez dû surmonter plusieurs obstacles. Ce serait quoi le moment qui a été le plus difficile dans votre carrière?
Bien, en politique, ce que personne n'aime, c'est l'échec. Il ne faut pas échouer en politique. T'sais, je comprends que parfois, il y a des politiciens qui ont échoué, puis ils reviennent, puis bon, ça arrive, mais il ne faut pas trop avoir d'échec là, en politique. Bon. Comme moi, par exemple, je n'ai jamais perdu d'élection. J'ai gagné tout le temps mes élections. On a gagné le référendum de Charlottetown. Puis là... La réponse à votre question, ben c'est 95. Où là, on perd. Là c'est l'échec, mais un vrai, là. Pas à peu près. Pas en termes de chiffres, on sait que c'était très proche. Mais proche ou pas, quand t'as perdu, t'as perdu.
Ah. 50 000 voix,
non? Ouais, peut-être même 30 000, ça dépend, là, mais... C'est sûr, là. Ben, je pense que si tu déplaces 30 000 votes, là, ça change tout. Mais d'un autre côté, que la marge a été aussi ténue d'un bord ou de l'autre, mais surtout du côté d'une victoire du oui, ça aurait été inconfortable quand même. Gagner par 30 000, ça fait pas, tu sais, c'est pas comme une victoire là, qui s'impose, mais il reste que ça aurait été tout à fait différent. Oui, 95, on a perdu. C'était ma première et grande défaite, là, puis pas une petite, là. Hein?
Comment vous diriez que ça vous a changé? Cette épreuve-là?
Ça a plus changé ce qui est arrivé au Québec par la suite. On a encore perdu des droits. Quand on a perdu le référendum de M. Lévesque, on a perdu des pouvoirs de l'Assemblée nationale. C'est dans des domaines de compétences fédérales provinciales. On a perdu des pouvoirs. La Constitution est venue apporter des distorsions dans la gérance des compétences du Québec... Ça n'a pas été la même chose après. Donc, le Québec est sorti diminué de la défaite référendaire de 80. Et puis là, notre défaite à nous autres, c'était la même chose. On a eu la loi sur la clarté. Les gens n'en parlent pas aujourd'hui. On dirait qu'ils ont oublié ça, mais pour refaire un référendum maintenant, au lendemain de l'adoption de la loi sur la clarté, il faut d'abord que la question soit soumise au Parlement d'Ottawa. Imaginez-vous. Là, un gouvernement péquiste va adopter la question en Assemblée nationale, mais ce ne sera pas elle la question, c'est celle qui va être approuvée à la fin par la Chambre des communes. La Chambre des communes n'aime pas la question. C'est comme ça, là. Qu'est-ce que ça ferait? Je ne sais pas, mais juridiquement, c'est ça. Et puis, une fois la question adoptée, là, il y a un référendum. Ben, c'est pas la majorité des voix. Ça va être la majorité qui va être déterminée par la Chambre des communes qui va se reconvoquer. Ah. Donc là, c'est une journée. Il y a des cadenas, là. Faut pas trop en perdre des référendums. En perdre un troisième, ça nous amènerait où? Alors moi, j'ai pas fait de référendum. Après avoir participé à la vie 95. J'ai pas voulu faire de référendum parce que je pensais il n'y avait pas de chance raisonnable de penser qu'on allait gagner. Les sondages ne nous montraient pas que c'était. Puis chaque fois qu'un parti a fait des élections en promettant un référendum, en se gardant la possibilité d'un référendum, il n'y a jamais eu la majorité. Pas la pluralité. Moi, je l'ai eu en 98. La majorité des députés, je n'ai pas eu la pluralité des voix parce que j'avais maintenu l'idée qu'on ferait un référendum. Puis les sondages nous ont bien montré que c'est là qu'on a manqué d'avoir la majorité qu'on aurait aimé avoir, qui nous aurait permis ensuite de faire un référendum. Tu sais, qu'on aurait donné une base politique. Puis Pauline Marois a maintenu l'idée de faire un référendum, mais elle était minoritaire. Alors, c'est pour ça que. Puis, ils regardent les sondages aujourd'hui. Il y a 35 % des gens qui sont souverainistes. Puis, il y en a combien qui veulent un référendum, là? Il n'y en a pas tant que ça, hein? Bon. Alors, tout ça pour dire que le lendemain d'un référendum perdu, c'est amer. Ça peut être périlleux.
Si on regarde l'autre côté de la médaille, de quoi êtes-vous fier? Autant sur le plan professionnel, mais peut-être aussi sur le plan personnel.
Je suis fier de notre gestion. C'est que malgré qu'on ait dû remonter une côte extrêmement abrupte en termes de rétablissement des finances publiques, on est arrivé à atteindre l'équilibre, puis on a été capable aussi, en même temps, puis surtout parce qu'on arrivait à l'année surplus, de créer des programmes sociaux importants. L'assurance médicaments, c'est nous autres. L'équité salariale, c'est nous autres. L'économie sociale qui a été relancée, c'est nous. La politique familiale avec les garderies, tout ça, c'est nous. Donc, moi, je suis fier de ça. Je suis fier qu'on ait été capable de faire avancer le Québec. Puis de faire en sorte qu'on n'était pas seulement que des manières de bistouri pour couper des programmes, mais des gens qui construisaient quand c'était possible. C'est ce qu'on a fait. Je suis fier de ça. Je suis fier aussi d'avoir dirigé un gouvernement intègre. Tu sais, parce que le Parti québécois, là-dessus, là, c'est impeccable. Hein? Quand tu es fier du Parti québécois puis des premiers ministres, tu rencontres des militants, ils ne demandent pas de contrat et de job. Ils te demandent de faire un référendum. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de pur dans la motivation politique des militants du Parti québécois. C'est justement un rêve qu'ils veulent réaliser. Puis on le comprend, puis on le partage. En même temps, ça fait un parti qui est difficile à gérer parce que le chef a des obligations, on dirait, de moralité politique, hein? C'est pas simple, là. Puis très parti démocratique. Puis il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont eu des rapports faciles avec le Parti québécois. Hein? Écoute, ça finit toujours par une démission. Lévesque, Parizeau.
Ouais. D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. La politique, pour certains, ça semble être un cadeau empoisonné. Certains qui voient grand, qui ont des grandes ambitions, suivent leurs instincts puis leurs rêves en politique, mais après sont incapables d'avoir des après-carrières de par les ennemis qui se sont créés, des positions dures ou décisions difficiles qui ont été prises. C'est quoi la recette secrète de votre côté pour avoir été en politique aussi longtemps, sur des sujets autant porteurs, puis être aussi apprécié puis respecté de tous?
Respecté, je ne sais pas. Mais les lendemains de la vie politique, ils sont pas faciles. Il y a un deuil. Mm-hmm. Je pense que la chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir été un avocat en exercice. J'ai pratiqué le droit 20 ans, moi, dans la politique. J'étais un vrai avocat, là. Je faisais tout, là. La négociation, le litige, l'arbitrage, je faisais tout. Je travaillais beaucoup en dehors de la région, j'étais souvent à Montréal, Québec, tu sais. Mais bon. Donc, j'étais un avocat. Et quand j'ai quitté la politique, je suis redevenu un avocat. Je pouvais donc continuer à gagner ma vie. C'est la profession idéale pour ça. Ouais. Si je n'avais pas été avocat, là, penses-tu que j'aurais... Je suis pas revenu chez Davis, là.
Ouais.
Alors, ça fait 24 ans, ça fait 25 ans que je suis ici.
Ouais.
Tu sais, parce que j'ai pratiqué le droit. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé, oui. Ouais. Pour le reste, je ne sais pas. Mais pour le reste, tu sais, il ne faut pas mal parler de la politique. Parce que tu avais dans tes phrases... préliminaire, il y avait une référence au fait que la politique s'est perçue comme étant difficile ou... Tu sais, avant que ta phrase, j'ai dit quelque chose.
Alors, j'ai dit cadeau empoisonné.
Bon, c'est ça. Alors, ça peut être ça, mais ça reste le seul moyen, le moyen le plus efficace, le plus légitime d'opérer des changements majeurs en société.
Ouais.
Alors, ça reste d'une importance cruciale. Et même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est ingrat, il faut encore que des gens qui l'ont à cœur, l'avenir du Québec, s'y engagent en politique. De plus en plus. La solution, c'est pas de s'éloigner. Puis il y a un certain éloignement des jeunes par rapport à la politique aujourd'hui, la politique active.
Vous avez déjà mentionné être inquiet de voir la classe politique se dévaloriser, puis de voir l'indifférence de notre génération face aux grandes questions. J'ai la chance de côtoyer John Parcella, que je considère comme un mentor. Puis souvent, j'ai des discussions avec lui par rapport à l'avenir de la politique, sur la diplomatie, puis le respect dans le débat public. Je me demandais si vous étiez en 2025, dans la jeune vingtaine comme nous, comment vous voudriez vous impliquer, puis qu'est-ce que vous feriez?
C'est une question très pertinente. Puis je me sens assez démuni pour y répondre, parce que je regarde ce que mes fils font. Ils sont un peu plus vieux que vous, peut-être, ils sont dans le jeune début de la trentaine. Peut-être pas là encore, vous autres, hein? Tout dans la vingtaine. Mais quand même, ils sont pas loin de vous autres, là. Puis ils ont fait les mêmes études que vous autres. Ils ont fait les mêmes études que nous autres. Bien, ils sont pas en politique actuellement. Hein? Ils sont pas en politique. Ils sont dans la Banque Royale. J'ai du respect pour tout ça, vous comprenez. Là, mais c'est pas l'engagement politique. Hein? Mais c'est des carrières formidables. C'est ça qui attire les jeunes aujourd'hui, des carrières. Ils peuvent venir n'importe où, c'est ouvert sur le monde. À part ça, pour une carrière lucrative, tu sais. Tu sais, tu peux penser à fonder une famille, puis la faire vivre correctement, puis les éduquer, leur donner ce qu'il y a de mieux, puis tu sais, je respecte ça. Donc, je comprends les jeunes qui sont attirés par ces carrières-là, puis en général, c'est surtout tout ça qui les attire. Hein? Pratiquer le droit, là, t'sais, ici, là, un jeune qui rentre ici, ben, il peut espérer l'élargissement de ses horizons, de sa carrière. Ça ouvre beaucoup de portes. Que tu restes dans la profession ou que tu en sortes un peu latéralement, ça reste quelque chose. Bon, c'est une plateforme, des institutions financières. Mes deux fils sont là-dedans, les institutions financières. Alors, je peux pas. Je respecte ça. Puis même mon frère Gérard Bouchard, lui, qui rêve du Québec la nuit, puis qui, tu sais, Gérard, c'est un engagé politique, là, tout ce que tu veux, là, puis il n'est pas là-dedans pour faire de l'argent. Il est professeur d'université, il a une pension de professeur d'université, puis il refuse des contrats, il peut faire ses recherches, tout. Ben, il y a un fils, ben, lui aussi, des institutions financières, il est à Singapour, puis, tu sais, bon. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, nous autres, ce qu'on voit autour de nous, ce ne sont pas les seuls, mais ça me paraît être un phénomène assez reproduit, largement reproduit. C'est que les jeunes sont pas beaucoup attirés par l'engagement politique. Puis il faut savoir que c'est pas simple. Un jour, après avoir quitté la politique, t'es invité par un groupe de jeunes de votre âge, là, puis un peu plus vieux, là. Je me rappelle, c'était au Club Mont-Royal. Ils étaient assez nombreux, d'ailleurs. J'étais, à mon avis, au moins une centaine. Puis c'était de jeunes professionnels, de jeunes gestionnaires, de jeunes entrepreneurs. Et puis, ils jugeaient très durement les politiciens d'aujourd'hui, enfin, de l'époque où la rencontre avait lieu. Puis moi, je leur ai dit, si vous les jugez comme ça, pourquoi vous n'y allez pas, vous autres? Vous pensez meilleur qu'eux autres? Vous êtes peut-être, même peut-être meilleur. Alors pourquoi vous n'y allez pas? Puis là, évidemment, tu sais, je me rappelle le cas de figure qui avait été utilisé. Supposons que c'était Jean Charest à l'époque, le premier ministre. Jean Charest appelle un garçon ou une fille de 35 ans qui ont fondé une PME 5 ans avant, puis qui ont pédalé, puis c'est difficile, hein, l'entreprise privée, là. Puis qui ont pédalé, puis au bout de 5 ans, là, c'est de l'oxygène, puis ça se déploie les ailes, puis il y a la business, puis là, ça, ouais. Puis là, Jean Charest les appelle à midi. Il voudrait vous rencontrer pour un lunch. Oui. Oui, vous êtes un jeune qui fonctionne, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais vous rencontrer, etc. Là, il arrive dans le bureau de Jean Charest, il s'éveille un lunch, puis Charest lui dit, écoutez, là, vous, là, vous êtes extraordinaire, on a besoin de vous. Alors, je vous offre de dégager un comté sûr. Les libéraux, ils en ont de ça, des comtés sûrs. Et puis, vous serez ministre, et puis vous allez faire jouer un rôle important au gouvernement, parce qu'il y a à cause de vos capacités que tout le monde reconnaît. Et comment un jeune réagit? Ben là, il est un peu là. Tu sais. Mettons que, comme on fait quand on prend une décision un peu motivée, là, prends une feuille de papier, 8,5 onces, tu mets un trait au milieu, les pour, les contre. Puis là, tu commences à écrire les contre en politique. Les contre, là, sur la clé de papier. Ouais.
Pas de feuille légale.
D'abord, tu as une business qui est en plein vol. Tout ce que tu as fait, tu t'en vas, puis on repart à zéro. Puis quand tu vas revenir à la politique, ça va être quoi? Il y avait des possibilités pour toi, je sais pas. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y a la famille. Tu as peut-être deux jeunes enfants de 2-3 ans. Le couple. Les couples qui ont été démolis par la politique, on en connaît plusieurs, n'est-ce pas? Et puis, les médias. Ils sont bien gentils, les médias, quand vous les rencontrez, mais quand le samedi matin, vous lisez les chroniques, les chroniqueurs, puis les journaux, puis ils parlent de vous, puis qu'est-ce que c'est, cet imbécile-là? C'est moi, ça. Oui. Ça. Oui. Votre petit garçon qui rentre à Mont-Jésus-Marie à 5 ans, Simon, petit bouclé, blond, il rentre à Mont-Jésus-Marie la première journée. Sa mère va leur conduire le matin, puis il lunch sur place, puis le midi, l'après-midi à 3 heures, ils vont les rechercher. Bon. Tu sais, c'était le patron à l'époque. C'est bon, c'était le mode de fonctionnement. Alors, André arrive à la porte, puis les sœurs ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'ils rentrent dans la classe. Il fallait attendre que les élèves sortent. Les petits sortent, tu sais. Fait qu'ils sont dehors, puis attendre que les petits sortent. Ils sortent de temps en temps, sortent de temps en temps. Finalement, tout le monde est sorti, tout le monde est parti, sauf Simon qui n'est pas venu. Alors, André, elle rentre dans Mont-Jésus-Marie, elle se promène, elle trouve la classe. Elle voit Simon qui est assis à son pupitre dans la classe, la tête dans les mains. Puis il était tellement cute, il était tout bouclé blond. Mais Simon, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Simon? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Si tu savais, maman, tu savais. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ils m'ont dit que papa est un trou de cul. Première journée d'école.
Oh, mon Dieu.
C'est ça, la politique aussi. Faut pas oublier ça, la famille. Ouais. Alors, puis il y a ben... alors, t'as fini ta liste, là, des comptes, là? Ben alors, va-t'en du côté des pauvres. Ben, c'est quoi, les pauvres? Une seule chose, c'est... T'as un goût... C'est dans toi d'y aller... Puis c'est plus ou moins rationnel, mais tu veux servir, puis tu veux plonger dans la piscine, même s'il n'y a pas d'eau. Dans ce genre de situation-là, là, quelqu'un qui est dans la situation que je viens de décrire, là, c'est ça qu'on lui demande dans la politique. Conclusion, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est assez grave, ça. Parce que moi, j'ai commis un petit livre là où j'incite les jeunes à s'engager politiquement, là. Pas uniquement par la politique active, là, mais quand même... Il faut qu'il y en ait qui se présentent, puis qu'ils aillent prendre le contrôle, puis, tu sais, puis amener, je sais pas, valoriser un rêve, de le réaliser, puis etc. Il faut que ça se passe, sinon la qualité de la gestion ne sera pas la même. les engagements collectifs et les motifs pour lesquels on va en politique. Alors, il faut qu'encore qu'il y ait des jeunes qui décident d'y aller. Il faut.
Puis ça va peut-être créer un effet d'entraînement. Si plus de jeunes commencent à s'impliquer, plus
ouais,
de jeunes...
Oui, mais c'est pas ça qui s'annonce. Ça s'annonce pas comme ça.
Non. Non, c'est sûr.
Ouais. En tout cas, mais faut pas désespérer, là. Mais on sait que la politique, c'est encore l'endroit où se prennent les politiques, les décisions qui affectent des générations, qui vont affecter vous, vos enfants, et ainsi de suite. Franchement, là, les décisions qui se prennent autour d'une table, là, c'est ça, la politique aussi. Alors, c'est d'abord ça. C'est ça, essentiellement. C'est pas virer 4-30 jours pour une pièce, puis se promener en limousine, puis, tu sais, pas ça, là. C'est autour d'une table, on prend des décisions qui vont engager l'avenir, vous engagez vos responsabilités ou vous incarnez vos valeurs avec le courage de les défendre. Ça, c'est un exemple de ça, c'est le premier cabinet de René Lévesque. Le deuxième était bon aussi, mais le premier, c'était exceptionnel. Regardez ce qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont prises. Là,
en 2006, vous avez fait une sortie publique où vous avez déploré le fait que le Québec avait un manque de productivité, notamment en comparaison à l'Ontario et aux États-Unis. C'est également des propos que vous avez réitérés lors de votre plus récente lettre ouverte publiée dans la presse avec vos collègues Sébastien Roy puis Nicolas Morin. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce manque de productivité, puis en quoi le reprenariat, est-ce que c'est une solution à ça?
Bien, d'abord, c'est un fait. Il y a des gens qui ont tendance à nier qu'il y a un manque de productivité. Bien, ça fait partie du problème, c'est quand on commence à nier l'existence du problème. Là. Mais là, c'est réel. Le Canada aussi, le Québec, le Canada tout entier, traîne en arrière de la liste des nations et des gouvernements en termes de productivité. Puis ça, il y a un prix énorme à payer pour ça. Bon. Alors, là, on dit pourquoi, puis comment on peut y remédier. Bon, pourquoi? Bien, pourquoi... Les gens disent, on a fait des choix. Pourquoi on me reproche souvent de comparer les heures travaillées... En Ontario, dans l'ensemble canadien, puis aux États-Unis, vous savez qu'on est toujours en bas, là. Ah, les gens disent, non, c'est injuste ce que vous faites là, parce qu'on a fait des choix. Hein? Oui, mais c'est justement ce que je dis, on a fait des choix. C'est ce choix-là que moi, je trouve qu'on devrait réexaminer. Est-ce que c'est le bon choix, autrement dit? Mais donc, à partir du moment où on a fait ces choix-là, c'est définitif, là, tu sais? Bon, alors ça, évidemment, ça a été mal perçu. Ça a créé Québec solidaire. Ils ont pensé qu'on allait fonder un parti autour du Québec des Lucides. Puis, c'était un coup préventif, comme on dit. Ils ont créé Québec solidaire, mais en fait, on ne voulait pas créer un parti. C'est vrai que si on avait créé le parti, ça aurait été nous, la CAQ, là.
Ouais.
Les montages nous montraient, écoute, on aurait été élus, là. En tout cas, on pouvait penser à l'époque, à la lecture de ces sondages-là, que ce serait une élection de maréchal. Je ne sais pas si ce serait arrivé, mais de toute façon, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait juste lancer une alerte, puis attirer l'attention sur des choses qu'il fallait changer, mais ça n'a pas été changé. Il n'y a rien qui a été changé, là. Puis ce qu'on disait est encore vrai, là. Ce qu'on disait est encore vrai. On disait qu'il fallait ajuster les tarifs de l'hydro pour refléter davantage la richesse. Tu sais, c'est pas parce que tu es un magasin de bonbons puis que tu es propriétaire du magasin, il faut que tu manges les bonbons, parce que... Ils n'ont plus de magasin après, tu sais. Nous autres, l'électricité, regarde l'Ontario, regarde l'Alberta, ils payent leur pétrole et son prairie. Nous, on se paye bon. Alors, d'autres, on pense que... Puis tu vois, d'ailleurs, même la régie de l'électricité, comment elle s'appelle, la régie, là? Il y a un rapport qui est sorti récemment qui dit qu'il faut augmenter les tarifs.
Ouais.
Le gouvernement dit non, tu sais. Au moment où on est en déficit et au moment où... tu vois, bon, donc c'est le même débat. Le même débat. Et puis, sur la productivité, ça s'est rempli. C'est empiré, je pense. C'est empiré. Puis là, on est vraiment mal pris parce qu'on est dans cette situation-là au moment où il y a l'attaque frontale des Américains. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a dormi sur la... On va dire dormir sur le commutateur. parce qu'on s'est conforté dans l'idée qu'on pouvait vendre aux États-Unis... Ouais. Sans productivité. Pourquoi? À cause de du 30-40% de différence de monnaie. On produit, on paye ce qu'on produit avec de l'argent canadien, et puis on va le vendre aux États-Unis avec à des dollars qui sont 30-40% plus élevés. Alors, en partant, tu as une marge de gain qui n'est pas réaliste. Tu peux même être improductif, puis avec seulement 20% de marge, tu vas réussir. Tu sais, tu comprends? Il y a comme une incitation. Là. En tout cas, il y a un manque d'incitation à s'améliorer. Alors, on paye cher maintenant parce qu'on comptait sur eux autres, sur leur voisinage, sur leur bonne foi. Puis, c'est un peu comme les chaises musicales, là. Tu sais, la jouer de chaises musicales, là, on est huit, on danse autour de sept chaises, puis la musique, c'est le fun, tout le monde danse. Pouf, la musique arrête, il y en a un qui n'aura pas de chaise. Puis, c'est un peu ça qui nous arrive, là. Il nous manque une chaise, là, puis on est mal placé pour réagir, d'autant plus qu'on est en déficit épouvantable à Ottawa, ici. Je veux pas être négatif, là, parce que...
Monsieur Bouchard, on ne voulait pas que ce soit un point central de la discussion d'aujourd'hui, mais je tiens quand même à vous entendre sur votre vision du comportement de notre voisin américain. Est-ce que vous pouvez nous réconforter un peu? Ça fait du bien de vous entendre quand vous faites des sorties publiques. Comment voyez-vous le dénouement?
Bon, c'est juste une opinion, puis c'est peut-être une opinion influencée par le désir... que mes rêves se réalisent, mais moi, je pense que ce qu'on voit actuellement, ce qui vient des États-Unis, c'est pas les États-Unis. C'est pas les Américains qu'on connaît puis qu'on aime, puis en qui on a eu confiance. Puis il y a une chose qu'il faut dire, là, en termes de dynamique géographique, dynamique économique, ben notre partenaire, ce sera toujours les Américains. Ce sera toujours les Américains. C'est le cas. On n'en sortira pas. C'est la plus grande puissance économique du monde. On a un pays à côté qui est plein de richesses naturelles, plein de ressources. C'est le marché naturel. Ça peut pas être autre chose. Bien, on peut essayer d'aller en Europe, mais est-ce qu'on vend beaucoup en Europe? On vend pas en Europe. Est-ce qu'on vend beaucoup en France? On vend pas en France. Ça fait des années qu'on veut améliorer la balance commerciale avec la France. Néné. Alors, du jour au lendemain, tout à coup, l'Europe, ils vont s'occuper d'eux autres d'abord. Ils sont mal pris. Ils sont très mal pris. Puis... oui, il faut espérer l'amélioration, puis c'est sûr, il faut essayer de diversifier nos exportations, c'est sûr. Mais c'est pas avec la Chine qu'on va améliorer nos affaires, parce que les Chinois non plus, ils acceptent l'achat de rien de nous autres, à peu près. C'est, c'est nous autres qui achetons les affaires chinoises, puis leur envoyons notre argent, puis on les a toutes mérifs, les Chinois, là. C'est nous autres qui les avons mérifs, là. D'accord, c'est le consommateur pour sauver 3 $ sur un produit. C'est la Chine. Là aussi, on s'est dit, mais en tout cas, ça, on changera pas l'affaire de la Chine. Mais espérons pas que c'est du côté de la Chine qu'on va trouver un nouveau partenaire pour remplacer les Américains. Non, ce sont les Américains. Puis en même temps, bien, c'est ça qui me donne confiance, parce que aussi, c'est leur intérêt, les Américains. On a quelqu'un là, actuellement, qui regarde tout ça avec une loupe pleine de distorsions.
Il n'est pas capable de digérer le fait qu'il y a un surplus économique avec les États-Unis, mais c'est surtout
Américains. Il y a beaucoup de frustration, de ressentiment, de narcissisme. On peut même pas, nos dirigeants ne peuvent même pas dire ce qu'ils pensent, parce que si nos dirigeants pouvaient dire ce qu'ils pensent, ben d'abord, il dirait, l'homme qui est là, il l'a pas là. Ouais. Bon. Mais ils ne peuvent pas attaquer le personnage, il est là. Puis en relation internationale, bon, lui, il se permet, par contre, lui, il se permet de nous insulter, par exemple. Il se permet tout. Tout. Bon. Alors là, ça ne durera pas longtemps, ça. Ça ne peut pas durer. Il va frapper un mur, là, lui. Mais avant de le frapper, il va se faire mal, puis il va nous faire mal aussi. Puis à tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein? Tout le monde est frappé, sauf Poutine. Poutine, lui, est correct. Ouais. Non, alors moi, disons, l'espoir, c'est que c'est un mauvais moment à passer, à le fond. Ça va être difficile, ça va être dur. Faisons pas d'erreur, là. Perdons pas confiance. Parce que c'est notre partenaire, c'est notre voisin, c'est notre ami. Notre ami qui est à côté, là. Notre ami, là, il est malade. Il y a une sorte de virus. Le virus, ben, il y a des antibiotiques. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle les tribunaux, ça s'appelle le marché, ça s'appelle les élections législatives dans 2 ans. Bon, ça peut pas continuer, c'est trop gros. Ça ressemble pas à l'histoire américaine, ça ressemble pas au rêve américain, à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. On a quelqu'un là, qui a réussi à transformer en appui électoral d'immenses frustrations et de ressentiments, dont certains s'expliquent aussi parce qu'il y a eu des dérapages là, du côté de la démocrate, puis de la gauche là, démocratique. Là, il y a des affaires, les woke, puis tout ça. Là, ben, un paquet d'affaires folles que le monde n'a pas compris. Là. Puis là, les gens, ce n'est pas des gens qui peuvent s'exprimer régulièrement là, parce qu'il y a des... Il y a des idées reçues qu'il faut accepter, mais quand il y a des élections, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est capable de tabler là-dessus, bien, ça donne ce que ça donne, là. Puis ça n'est pas chanceux, là, parce que des phénomènes comme lui, c'est rare, là. Quelqu'un qui met autant de défauts sur sa même personne, là, c'est rare. Mais avec un tel pouvoir, ça, moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager, il faut être
patient. Est-ce que les actions qu'on pose... Canada en ce moment,
ben, je pense que moi, je trouve que nos dirigeants font ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que ça pour le moment, je pense. Il y a une question de patience aussi, parce qu'ils changent d'idée souvent de l'autre côté.
Alors, ça, de l'interne des États-Unis,
le changement. J'espère que... Puis les républicains aussi. Les républicains, ils vont pas tout... Moi, je ne crois pas que tous ces gens-là vont tous avaler tout pendant tout le temps. C'est quelque chose qui va arriver. Regarde l'attaque contre Paul Weiss.
Ouais.
C'est incroyable, ça. Ils ont ciblé un immense cabinet. Pourquoi? Parce qu'ils ont des avocats dans ce cabinet-là qui ont participé à des poursuites contre Trump et qui ont été maintenus par un tribunal, in the due process of law, et un jury. Puis ils ont été ciblés. C'est impensable, ça. C'est... Une journée, c'est la suppression de Voice of America. C'est la suppression de USA. Hier, c'était le démantèlement du ministère de l'Éducation, rien que ça. Ça ne durera pas indéfiniment. Soyons patients, puis soyons solidaires, fermes, puis imaginatifs.
Je pense que sur ces mots-là, c'est une bonne place pour transitionner vers nos dernières petites questions qu'on a pour vous. C'est des questions qu'on pose à chacun de nos invités qui se voient d'être très courtes. On en a 4 pour vous. Je commencerai en vous demandant, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné, puis c'est quoi le conseil que vous êtes le plus heureux de ne pas avoir écouté?
Longtemps, on me conseillait d'aller en politique. Je trouvais que c'était un mauvais conseil, puis je n'allais pas. Finalement, je suis allé. Est-ce que c'était négatif au point que je dois considérer maintenant que c'était un mauvais conseil? Je ne sais pas. C'est plus complexe que ça. Des conseils, on en a de beaucoup. Des conseils malicieux qui ont fait en sorte que c'était le désastre, je ne verrais pas. Mais je pense que les conseils importants qu'on a, c'est quand on... C'est à l'étape de notre éducation. Les professeurs qu'on rencontre, les maîtres. Ça, ce sont... Dans toutes nos vies, il y a au moins une ou deux personnes qui ont joué un rôle important durant vos études, qui vous ont influencé. Et ceux-là, c'est des bons conseils. Et j'en ai eu la chance d'en avoir. J'ai eu 2 professeurs que j'ai beaucoup admirés, qui m'ont beaucoup aidé pour faire les bons choix. Puis de bien percevoir les choses où on va, en sens des valeurs et tout. Oui, j'ai eu des bons conseils. J'ai eu plus que de mauvais. Honnêtement.
Maintenant, la personne que vous admirez le plus?
Historiquement. Je dois en nommer 2.
En fait,
il faut que j'en nomme quelques-uns. Et chacune d'elles mériterait d'être la seule, mais Churchill.
Ouais. Vos discours, vous inspirez de lui, c'est ça?
Oui. Puis l'homme d'État. La résilience. Oui.
Aimez-vous autant les cigares que lui?
Non. Et le scotch non plus. Non, Churchill, De Gaulle. Abraham Lincoln, un vrai.
Ouais.
Puis après ça, il y en a d'autres, là, mais il faut arrêter, là, à un moment donné. Mais...
Ouais.
Dans mon univers là, plus ou moins contemporain, pour moi, ça, ce sont les grands.
Et si on se tourne maintenant vers les Québécois inspirants?
Il faut parler de Mercier et de Papineau. Okay. Honoré Mercier et Papineau. Ben, ils n'ont pas la même époque, mais bon. Puis il faut parler de La Fontaine. Quoi qu'il est controversé, La Fontaine, parce que il a accepté la réunification avec l'Ontario, avec un partage injuste des dettes. Et puis au lendemain de l'injection de 37-38, ce à quoi on a été soumis de la part de représailles des gouvernements britanniques, c'est sûr que... Mais lui, il a accepté de tourner la page puis de construire là-dessus. Et puis, effectivement, il a fait de grandes choses, La Fontaine. Tu sais, il a fait de grandes choses. Mais La Fontaine, c'est un grand, mais je le mets après Papineau, après Mercier. Il ne faut pas oublier René Lévesque. Puis il y en a d'autres, là, mais si on veut se limiter un peu, là, arrêterait là.
Puis, si on sort de la politique maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de Maurice Richard, de Félix Leclerc, de...
Oui. Ouais. Ben, moi, Félix Leclerc, je l'aimais. On aime Félix Leclerc. Maurice Richard, on admire l'homme, le joueur de hockey. C'est un personnage plus que sympathique, là. Tu sais, c'est un personnage qui a inspiré les Québécois à l'époque, mais dans son registre, tu sais. Ouais. Ouais. Mon père admirait... beaucoup. Mon père admirait Maurice Richard et Duplessis. Mon père admirait Duplessis. Il me disait, Duplessis, là, les gens regardent la fenêtre de son bureau, là, puis la fenêtre, c'est toujours allumé, il dort pas, il travaille tout le temps. Il me disait ça. Il me disait, il rédige toutes les lois. Il a même rédigé la loi du paratonnerre. Il y avait une loi sur le paratonnerre. Mon père était Duplessis, fermier, c'est la ferme. Duplessis, les autres, c'est des bleus.
Bon, puis, dernière question. On a parlé plutôt de l'importance de la lecture pour vous. Ce serait quoi un livre qui vous a marqué particulièrement?
Ah ben là, encore une fois, je ne peux pas limiter un seul livre. On n'ira pas sur une île pendant 20 ans avec un seul livre. Non, mais un livre que... Il faut que je mentionne Les Mémoires du Toton. Il faut que je mentionne Proust, il faut que je mentionne Malraux. Okay. Puis même à 20 ans, c'était Malraux, surtout. Malraux. Puis Proust, rapidement, ensuite. Puis Chateaubriand, ben, je suis en train de le relire. Les mémoires, là, je ne sais pas, la troisième, quatrième fois, je suis toujours en train de lire des bouts, là. Et toujours en chantier, Chateaubriand, c'est... Bon. Mais un livre important, pour moi, c'est qui a été une découverte, puis qui prête beaucoup à réflexion, pas forcément positive, vous me direz, c'est « Le monde d'hier » de Stefan Zweig. Ça, c'est un livre extraordinaire. Stefan Zweig, c'est un des grands écrivains du 19e siècle. C'est un Autrichien, un Viennois. Et il a écrit des pages extraordinaires sur la culture en Europe, en particulier avant le nazisme. La description de ce que les nazis... on fait en termes de démolition, de destruction des valeurs culturelles. En même temps, c'est un auteur, il a écrit beaucoup de livres intéressants, mais son livre le plus frappant pour moi, c'est « Le monde d'hier ». Il a écrit ça alors qu'il était... Il a écrit ça durant la guerre, la deuxième, où il s'était réfugié, je pense, au Brésil, ou en Argentine, je pense, c'est plutôt le Brésil. Il était bien très découragé de voir ce qui se passe en Europe. La Deuxième Guerre mondiale, l'hécatombe, destruction des libertés, génocide. Il est tellement découragé qu'il a écrit ce livre-là. Il l'a mis à la poste en 43, je pense, aux alentours, avant la fin de la guerre. Puis le lendemain, il s'est suicidé. Mais le livre est allé, c'était un livre magnifique. Très beau livre. Le monde d'hier.
Puis finalement, si je peux en reposer une dernière, j'ai bien apprécié les gens que vous nous avez nommés, qui vous inspirent, qui sont malheureusement, pour la plupart, ou peut-être tous, décédés. Si on avait une personne vivante à interviewer dans ce genre de podcast-là...
Ouais. Ben d'abord, vous ne pouvez pas interroger un politicien qui est en exercice et qui est en campagne électorale. C'est trop chargé, tu sais. Donc quelqu'un qui est à la retraite.
Oui.
J'essaierai de... Il va peut-être vouloir, puis il est encore très bon et surprenant. Guy Rocher. Il y a 100 ans.
Ah oui?
Il y a 100 ans.
Qui était votre professeur?
C'est un des deux. Je vais avoir l'esprit. Guy Rocher... Guy Rocher, je l'ai rencontré... je l'ai revu il y a quelques mois, tout au plus. C'était le lancement d'un livre, L'épouse de Jules Duceppe. Sur les maternelles 4 ans, là, militante pour cette idée-là. Oui. Elle a fait un livre, puis je suis allé au lancement, et Guy Rocher était là. Et il a fait, il a prononcé une allocution, sans notes, sans temps, parfaitement calibré, formulé, intelligence totale, d'accord, sans temps. Puis c'est un témoin incroyable du Québec, là. C'est quelqu'un qui était au cœur de la Révolution tranquille, la Commission Parent, qui a déclenché tout ça au début des années 60. C'est un très grand intellectuel, un homme de réflexion.
C'est un des grands sociologues.
Un des grands sociologues. Guy Rocher, c'est quelqu'un que vous pourriez... serait intéressant à interroger. Moi, j'aimerais ça l'interroger. Lui demander comment il réagit. Parce qu'il a traversé la guerre, il a traversé toutes les tendances politiques qu'on a vécues. Il a connu beaucoup de monde. Il a connu des acteurs comme André Laurendeau, Gérard Filion, ces gens-là là, qui ont fait l'histoire du Québec. Guy Rocher, c'est un état. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est des gens-là qui... Comme Guy Rocher, il y en a beaucoup.
Ouais.
Si on parle des gens de 100 ans, il y a Jeannette Bertrand.
Oui.
Je pensais à tout le monde en parle la semaine passée, là,
oui.
Elle est extraordinaire.
Pas du tout qu'il y a ça, cet âge-là.
Mm. On est frappé, hein. Avant-hier, je suis allé au lancement de la saison 25-26 de l'OSM, à la Maison Symphonique. Et puis, bon, j'ai fait mon allocution, puis il y avait beaucoup de monde, puis j'ai assis dans la salle. Il y avait une dame à côté de moi. Et puis après, elle s'est mise à me parler. J'avais l'impression de... Je me disais, quel âge a-t-elle, hein, tu sais? Je disais, peut-être 70, hein, tu sais, parce qu'elle était très alerte. Et puis, finalement, pour découvrir qu'elle avait 91 ans. 91 ans. Puis là, ben, tu sais, je me suis dit, mais... Madame, je vais aller vous conduire. Non, je marche. Je veux rentrer chez moi à pied. Donc, je marche. Ça me fait du bien. Tu sais. Puis là, je vois ça avec elle. Là, tu vois, qu'elle était mort, là. Tu sais. Une femme qui a travaillé dans des bureaux comme adjointe. Tu sais. Elle aime la musique. Elle va au concert. Elle a 91 ans. Puis elle regarde la vie. Puis elle voit tout ce qui se passe. Puis elle a des commentaires. C'est formidable de voir ça. C'est formidable.
Monsieur Lucien Bouchard, merci beaucoup.